Nous avons un plan, grâce à la puissance de nos forces armées, qui prévoit que tous les ponts d'Iran seront détruits, que toutes les centrales électriques d'Iran seront hors service, brûleront, exploseront et ne pourront plus jamais être utilisées. Une destruction totale, et si nous le voulons, cela se fera en l'espace de 4 heures.
Putain de missile téléguidé qui rase un village. C'est le concept ultime. La guerre qui sauve des vies. Génial.
Vous vous souvenez, c'était dans les Guignols.
Le commandant Sylvestre.
Le commandant Sylvestre, le maître du monde sous les traits de Sylvester Stallone. Effectivement, donc Donald Trump commence à en avoir ras-le-bol. Il veut terminer sa guerre avec l'Iran. C'est le déluge de feu, c'est l'enfer. Et s'il veut, il règle le problème en moins de 4 heures, Donald Trump.
Alors, en tout cas, le compte à rebours est lancé. Alors, il a repoussé de 24 heures son ultimatum qui doit expirer dans quelques heures. Mais pour l'instant, le régime iranien résiste. Dénonce d'ailleurs cette rhétorique grossière et arrogante du président américain. Donc on est dans un bras de fer. On nous parle de négociations, de cessez-le-feu, etc. Visiblement tout ça semble s'éloigner et le moment de vérité est là. Alors effectivement, les Américains peuvent taper encore plus fort que ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça fera plier l'Iran ? On a bien compris que le régime des Mollahs avait comme seule arme véritablement le détroit d'Ormuz. Certes, il lance des missiles, etc. qui peuvent parfois tuer, mais c'est quand même assez peu par rapport à l'armada qu'il y a en face. Le détroit d'Ormuz, en revanche, est un moyen de pression. Donc, est-ce que Trump doit taper le plus fort possible pour faire céder, une fois pour toutes, le régime iranien ?
Jean-Loup.
Alors, non, mais c'est très intéressant parce que, premièrement, j'entends les déclarations de Donald Trump qui sont un parfait résumé de ce qu'est, point de vue de la définition du droit international, un crime de guerre. Parce que si je fais sauter tous les ponts qui sont des ouvrages civils d'un pays, si je fais sauter les stations électriques qui sont des infrastructures civiles qui servent à la population, eh bien je commets typiquement un crime de guerre. Donc très bien, mais à partir de là, il ne faudra plus jamais dénoncer aucun crime de guerre, et surtout pas ceux de M. Poutine, parce qu'on n'est plus du tout crédible. Donc là, typiquement, Donald Trump menace de commettre un crime de guerre et annonce qu'il va peut-être, potentiellement, commettre un crime de guerre. Deuxièmement, on pense que Donald Trump fait ça parce qu'il est lui-même, en fait, aux abois pour, je pense que pour la première fois depuis longtemps dans sa vie, il dort mal la nuit parce qu'il sait qu'il a fait une énorme connerie. Il se rend compte qu'en fait, cette guerre s'enlise et qu'il a une supériorité militaire, mais il n'arrive pas à la convertir politiquement. C'est une impasse politique, il n'y a pas d'issue politique. Vis-à-vis de la population américaine, il avait été élu en 2016 et en 2024 sur un programme isolationniste anti-guerre, avec un slogan en 2024 « J'arrêterai toutes les guerres ». Là, il fait totalement l'opposé. Il sait que cette guerre est impopulaire aux États-Unis. Il voit qu'en fait, il n'y a pas d'issue politique claire, et donc qu'il est dans une impasse et qu'il s'est mis lui-même dans un bourbier. Et donc, il essaye, il joue au poker et il menace. Une menace de crime de guerre. Et voilà, mais parce qu'en fait, il a fait une immense connerie. Et moi, je pense qu'il faut arrêter cette guerre, revenir à la table des négociations, donner du temps aux négociations et arrêter les aventures militaires délirantes qui se concluront, comme toujours, par un fiasco.
Laura ?
Donc toi, tu négocies avec des gens qui massacrent leur population ?
Bah oui.
D'accord, ok.
Ok, bah et oui, donc, ça s'appelle la diplomatie.
Je peux finir une phrase ?
Oui, bah tu m'as posé une question, je te réponds, sœur.
Ce que j'essaye de dire, c'est que tu as l'ensemble, tu as quand même dans ces régimes des gens qui lapident, qui tuent.
Ok.
Ok, donc toi en fait, je finis. Trump, moi la seule chose qui me déçoit dans le conflit actuel, c'est que moi j'avais vu Trump, bien que à certains égards j'ai très peur de ce monsieur, j'avais vu Trump comme la seule personne qui était capable de sauver les femmes d'Iran.
Et en fait, t'aimes pas Trump, mais quand il tue des musulmans, là, tout d'un coup, c'est super.
Est-ce que tu m'as entendu parler de musulmans ?
C'est exactement ce que vous pensez. La vie des Iraniens n'a pas de valeur pour vous.
Oui, c'est bien
et
sûr.
Et les 135 fillettes tuées. Les femmes iraniennes, c'est aussi les 135 collégiennes.
Qu'est-ce que je suis en train de dire ?
Ça montre la faiblesse de tes arguments.
Qu'est-ce que je suis en train de te dire, Jean-Loup ? Moi, je te parle juste à une population qui a été décimée par leur propre gouvernement.
Ok.
Ce sont des femmes qui hurlent, ce sont des femmes qui sont brûlées à l'acide, ce sont des femmes qu'on lapide, ce sont des gens qui sont obligés de s'expatrier de leur propre pays pour leur survie.
Pas que les femmes hein, qui sont pendues.
Et non, t'as les hommes qui ont la décence de soutenir les femmes, eux,
et,
c'est pareil.
Et qui sont pendues.
Donc je suis désolée. Moi, j'estime que c'est une réponse à non, peut-être pas un crime de guerre, mais un crime contre l'humanité. Quand tu as des gens qui se font tuer parce qu'ils sont homosexuels. Quand
ah bah
tu
c'est
as...
sûr, faut faire des guerres à tous les pays qui oppriment les femmes. On va être en guerre avec les trois quarts du monde, mais bon.
Et ça te pose aucun problème que la moitié du club se fasse opprimer?
Ma réponse est très simple, ce n'est pas mon problème. Occupons-nous des affaires françaises.
Et alors tu veux que je te dise, Jean-Loup,
la liberté des femmes iraniennes, qui est très noble, dépend des femmes iraniennes
alors,
elles-mêmes. Ce n'est pas
du
à
tout,
nous,
mais
et
pas
encore
du
moins
tout.
À Israël
quand
et aux États-Unis.
Mais alors je vais te dire quelque chose. Moi, tous les gens là au Soudan qui se font massacrer entre eux, et là c'est pas une question d'arabe pas arabe, de noir pas de noir, c'est des noirs qui butent des noirs, ça me révolte.
Mais oui, faisons des guerres, envahissons le Soudan.
Mais j'ai peut-être envie de vivre dans un monde où une gamine de 6 ans ne se fait pas exciser avant de se marier avec un mec de 70. Pardon, oui ça me concerne.
Mais faisons une guerre, envahissons
ça me concerne. Donc
Sahel.
Toi qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Tu vas aller prendre tes sous, tu vas te mettre ton argent de côté, tu vas vivre avec ta petite vie de prof de philo qui se préoccupe de la vie de personne, tu n'es qu'un égoïste.
Bombardons-les pour les libérer et leur apporter la belle démocratie féministe occidentale. Comme ça, toutes ces fillettes excisées, quand elles seront en morceaux sous tes belles bombes, eh ben, elles seront plus libres.
Mais t'as demandé au peuple iranien? Est-ce que tu as vu comment le peuple iranien a accueilli Donald Trump? Est-ce que tu as vu comment ils l'ont accueilli?
Qui n'était pas d'accord?
Les gens qui n'étaient pas d'accord sont des gens qui cachent leurs femmes sous des capes noires, qui les empêchent de voter, qui les empêchent de manger, qui les empêchent de vivre, et qu'on découpe les parties vaginales pour être sûr qu'elles ne prennent aucun plaisir.
Alors pas en Iran?
Ah bon, les mollahs, ils font pas ça?
Il n'y a pas d'excision en Iran.
Ah bon,
l'excision n'existe pas en Iran.
Mais c'est génial.
Il y a pas
alors, dans ces cas-là,
en Iran,
une femme qui décide d'enlever son voile, on la trouve pas sous l'acide.
Et ensuite, dans les facs iraniennes, dans les universités iraniennes, il y a plus d'étudiantes, il y a plus de filles que de garçons dans les facs en Iran. C'est un fait.
Arrêtez
de dire des femmes ingénieures, il y a des femmes scientifiques en Iran.
Mais
attends, j'ai juste posé une question.
Non, j'ai plus envie de. Franchement, là, j'ai pas envie de parler à un mec comme toi. Je te dis.
Non, mais si, tu vas continuer.
Est-ce que du coup, il faut déclarer la guerre à la Chine? Parce que la Chine enferme des millions de Ouïghours dans des camps de concentration.
Oui,
alors on déclare la guerre à la Chine.
Mais je trouve ça honteux.
Eh ben, déclare la guerre à la Chine.
Mais alors, écoute-moi bien.
Envahis la Chine.
Mais je suis présidente.
Ouais,
je suis présidente. Mais entre soutenir un régime qui lapide et
personne
ne pas l'attaquer.
Personne ne soutient le régime iranien ici. Non.
Toi.
Non.
Personne ne soutient le régime iranien ici.
Non, non. Jean-Loup dit que la guerre est illégale.
Malheureusement,
et absurde et une impasse.
Je crains que. D'abord, les Iraniens quand même nous gonflent avec leur uranium, hein. Il y a un moment, ils font quand même chier tout le monde.
On en a aussi de l'uranium.
Projet. Oui, mais on n'est pas une théocratie qui pend des gens sur la place publique.
Donc Israël a la bombe atomique.
Que quelques pays aient la bombe atomique.
Le Pakistan.
C'est voilà. Le Pakistan voisin de l'Iran.
Là. Enfin, mettre une bombe atomique dans les mains de terroristes. Excuse-moi, c'est un chouïa différent.
C'est pas forcément une bonne chose qu'un pays qui promet.
On ne menace pas
depuis des années.
Jean-Loup, ça t'a pas échappé.
De rayer un autre état de la carte se dote de la bombe atomique. Là-dessus, t'es quand même d'accord.
Ah mais moi, je suis pas pour qu'il y ait une bombe iranienne. Bon. Simplement, je constate qu'il y a une bombe israélienne atomique, mais qui ne menace pas
Israël.
Qui ne menace pas une bombe atomique pakistanaise. Voisin de l'Iran, moi je serais iranien, je serais un peu inquiet d'avoir des voisins pakistanais avec la bombe atomique. Et surtout, juste un point sur la bombe atomique. Là, il y avait des négociations juste avant la guerre. Pendant les négociations, lorsque les négociations étaient en cours, et que les Américains eux-mêmes, c'est pas moi qui le dis, c'est les Américains, avaient dit ces négociations ne sont pas infructueuses, elles donnent des résultats. Finalement, par surprise et illégalement, en violation du droit international, les États-Unis ont frappé l'Iran.
Ça fait des années qu'on
les pays,
dit ça.
Les pays,
je savais pas que tu étais
les pays, les autres pays, quelles conclusions ils vont en tirer? Ils vont se dire, on ne peut pas négocier avec les États-Unis, ce pays n'est pas fiable, la seule sécurité, c'est d'avoir la bombe atomique.
En fait, c'est amusant parce que Jean-Loup.
C'est la détestation des États-Unis.
Non mais Jean-Loup,
c'est
l'inverse. Ça va liguer le monde non occidental contre l'Occident.
C'est l'inversion accusatoire, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça, c'est l'Iran qui est victime et c'est l'Iran qu'il faut protéger. Je vais terminer parce que s'il y a que toi qui parles, il n'y a pas de débat.
Il y a que moi qui dis des choses intéressantes.
Pardon, mais aujourd'hui, il est avéré que l'Iran a menti dans ses négociations. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef des inspecteurs qui a dit que l'Iran cachait de l'uranium et que le régime des Mollahs n'avait pas l'intention, contrairement à ce qu'il a pu avancer, à renoncer à son programme nucléaire. Un pays qui menace directement un autre pays de le détruire, doit-il posséder l'arme nucléaire? C'est ça la vraie question. Charles. C'est ça la vraie question. Donc, a priori, on va répondre non. Alors, comment faire années. Pour l'empêcher?
Mais alors, moi, comment faire pour l'empêcher?
Ça fait des années que les Iraniens prétendent avancer vers le désarmement nucléaire et qu'en fait, évidemment, en loose day, ils fabriquent leurs bombes nucléaires. Il n'y a pas besoin
dans des tunnels,
d'avoir fait
ça avéré,
l'école du Quai d'Orsay pour comprendre ça, ni voilà. Donc, Trump, il est dans la nasse, parce qu'il a lancé effectivement cette opération, voilà. Manifestement, sans l'avoir beaucoup préparé, et il se rend compte que c'est pas aussi rapide qu'il l'espérait, et qu'en plus, il y a des dommages collatéraux quand même assez sérieux avec ce putain de détroit d'Hormuz, si vous me passez l'expression, mais je me mets dans son esprit. Le fait donc, je crains qu'il n'ait malheureusement pas d'autre choix, comme il a pas envie de balancer 20 000 Marines, ou 30 000, ou 40 000 sur le sol iranien, je pense qu'il a pas d'autre choix là que de bombarder comme un sourd jusqu'à ce que les Iraniens craquent.
Et donc, de tuer des milliers de civils.
Mais je pense.
Il n'y a pas des milliers de civils.
Si on détruit toutes les centrales électriques.
Moi, je pense que ça ne marchera pas. C'est-à-dire, ils vont effectivement bombarder comme des malades, ils vont péter des ponts, des trucs, etc. Ils vont y aller vraiment comme des dingues, y compris jusqu'à mettre la population civile dans une situation compliquée. Mais les mollahs, qui sont des fous furieux, ne lâcheront pas. Ils n'ont aucun intérêt à lâcher. Donc, ils ne vont pas lâcher.
Le temps joue pour eux.
Et en réalité, ce qui va se passer, c'est que Trump, une fois qu'il aura balancé des hectotonnes de bombes là-bas, va se retirer. Et petit à petit, ce détroit va se débloquer avec un Iran qui sera en lambeau, mais c'est tout ce qu'on, et les mollahs seront toujours au pouvoir.
Et la population iranienne s'en tiendra pas beaucoup mieux. Et c'est ce qui est désolant dans cette histoire. C'est-à-dire que sous prétexte.
Ça, l'histoire n'est pas écrite encore, pardon.
Non, mais enfin, pardon.
La fin de l'histoire n'est pas écrite dans
tu regardes,
conflit.
Tu regardes.
Et de ce qui se passe
après la guerre. Régime terroriste, Afghanistan, regarde les conditions des femmes. Les mollahs, regarde les conditions des femmes.
Les Américains sont plantés aussi, d'ailleurs.
Mais à un moment donné.
Mais ça, c'est pas de la faute des Américains, hein.
J'ai pas dit que c'est la faute des Américains.
Oui.
Je dis que
ils sont partis la queue basse.
Je dis que malheureusement, oui, à chaque fois, pour des raisons plus ou moins géopolitiques, on laisse la moitié de la population se faire éclater. Et apparemment, ça ne choque pas. C'est normal. On s'en fout. Apparemment, on s'en fout des autres. Mais moi, j'adorerais être l'ami de Jean-Loup. Putain.
Oui, c'est vrai.
Mais faisons la guerre à la Chine. Allons libérer les Ouïghours à coups de bombes atomiques.
Fred, bonjour.
Oui, bonjour.
Ingénieur du son, Fred, du côté de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez, Fred?
Écoutez, c'est l'impasse. C'est l'impasse parce que je pense qu'on a des visions qui sont altérées des deux camps entre guillemets, c'est-à-dire qu'on nous a vendu des Iraniens un peu comme des barbares sauvages sans aucune intelligence. Et il s'avère qu'au final, ils ont plutôt stratégiquement bien joué leur coup, puisque malgré la puissance américaine et israélienne, ça n'avance pas en fait. Mm-hmm. On nous a dit qu'on allait décapiter le régime et que le peuple allait prendre le pouvoir. Bon, on se rend compte que c'était pas vrai et que c'était pas possible surtout. Donc, alors on bombarde pour libérer des gens qui au final, on va faire encore plus de mal puisqu'on va bombarder leur infrastructure civile, leurs ponts, leurs centrales nucléaires, leurs centrales électriques et tout ça. Donc au final, quand ce sera fini, ils seront encore pires qu'avant. Ils auront toujours les mollahs, ils auront un pays détruit. Donc, à quoi ça sert?
Ça, on n'en sait rien, Fred. Alors déjà, moi, j'adore les gens qui font. Non, mais j'adore les gens qui font sur la. Alors, on est tout. Maintenant, tout le monde est devenu. Alors, Jean-Loup est juriste international, donc il est capable de nous dire ce qu'est un crime de guerre et pas un crime de guerre.
Maintenant, j'en ai un sous les yeux. Oui.
Là, tout le monde est stratège. Maintenant, tout le monde. On n'en sait rien. Peut-être qu'effectivement, après cette guerre, si elle s'arrête là, peut-être que le régime des mollahs, quand même, qui est très affaibli, contrairement à ce qu'on raconte, puisque la plupart de ses têtes ont été tuées, peut tomber aussi derrière. La population peut se révolter. Et cette fois-ci, ça peut marcher. D'ailleurs, je pense que la grande crainte du régime des mollahs, c'est l'après-guerre. C'est qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il n'y aura plus les bombes, que la population, peut-être à ce moment-là, décidera définitivement de renverser ce régime. Alors, la dernière fois, parce que tu parlais des civils, mais je rappellerai quand même que le plus grand crime commis sur le sol iranien a été commis il y a quelques semaines, en deux jours, où entre 30 000 et 40 000 femmes, hommes et parfois des très jeunes ont été massacrés par le régime. C'est ça le vrai crime commis ces dernières semaines est celui-là.
Allez-y, Fred. Merci.
Et j'ai pas vu d'ailleurs les étudiants Sciences Po manifester à ce moment-là. Je m'étonne.
Ça sert à rien en fait ce que vous racontez d'incriminer les étudiants de Sciences Po. Ils y sont pour rien en fait.
Voilà. Non, mais ils manifestaient pour Gaza, mais ils manifestent pas pour l'Iran.
Mais ils font ce qu'ils veulent en fait.
Oui. J'ai bien compris.
faut arrêter.
J'ai bien compris qu'ils faisaient, qu'ils choisissaient leur cause.
On veut parler ou pas, ou sinon vous faites votre monologue, parce que bon, la propagande américaine, on la connaît par cœur, hein, vous savez.
Moi, la propagande américaine.
Allez-y, Fred. Je vous dis juste simplement, c'est pas histoire d'être spécialiste du droit international ou pas. C'est-à-dire qu'on voit, on regarde et on s'aperçoit que ces populations iraniennes. Au début, c'était les mollahs qui les massacraient, et maintenant, c'est les bombes qui les massacrent.
Mais non,
et
mais non. Face...
Bah, vous dites mais non. Et mais en, non. En plus, si vous lisez la presse américaine, la presse anglaise, etc., ils vous expliquent que la population est absolument terrorisée par le massacre qu'il y a eu il y a quelques semaines, et ils ne vont pas se révolter.
Parce très bien.
Très bien qu'à partir du moment où ils vont être dans la rue, ils vont se faire massacrer.
Bah pour l'instant, les Iraniens ne se révoltent pas. Bah ils se révolteront encore moins sous les bombes.
Tu sais, aujourd'hui,
personne n'aime les missionnaires armés.
Les Iraniens ont peur parce que s'il y a bien un régime qui ne protège pas sa population, c'est le régime des mollahs. Il n'y a pas d'abri comme en Israël.
Oui,
il n'y a pas d'alerte. C'est-à-dire que quand un missile arrive, personne ne prévient la population. Donc effectivement, la population iranienne vit sous la crainte de prendre une bombe.
Le plus simple, c'est de ne pas les bombarder.
Il y a plein d'abri.
Les Anglais ont bombardé la France pour notre bien.
Allez-y,
allez-y. Allez-y. Jean-Loup Bonamy aurait dû nous dire à ce moment-là qu'il fallait pas bombarder.
Attendez, j'aurais que Fred finisse.
Ouais, je disais simplement, il y a énormément de pays qui n'ont pas de sirènes, qui n'ont pas d'abri, et si jamais ils sont bombardés comme à peu près tout le monde. Hein. Israël n'est pas.
C'est pour ça qu'il y a très peu de victimes en Israël, parce que il y a un système. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un système très bien fait d'alerte, d'abri, des SMS, etc., qui n'existe pas en Iran.
Qui est lié à leur contexte.
C'est un gouvernement qui protège la population.
Juste Fred. Là, j'ai regardé selon les autorités iraniennes, on est entre 1200 et 1300 morts depuis le début du conflit de victimes iraniennes. Donc cette guerre a tué, et c'est très très triste, à peu près entre 1200 et 1300 personnes avec ce conflit. L'Iran, juste avant ce conflit, a massacré plus de 40 000 personnes. Qui a commencé la guerre? Qui
c'est
a cherché
guerre, c'est la politique
toi,
intérieure iranienne.
Non,
c'est la politique
ça,
intérieure
Laura,
s'il te plaît, iranienne.
C'est bon, calme-toi. Dans un instant, on continue de discuter.
C'est le pluraliste, Jean-Loup est facho.
On cherche pourquoi il est seul.
Ah bon,
enfin,
ah pardon.
Il n'aura pas d'attaque personnelle non plus, s'il te plaît.
Non, Jean-Loup est mollah.
Les gens redescend un peu tranquillement. Que la vie des Arabes et des Iraniens vaut moins que celle des Occidentaux.
Défend la vie des Iraniens.
Il est 10h20, merci à Fred. On continue de discuter dans un instant. À tout de suite avec nous sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
J'ai les grandes gueules sur RMC et RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Jean-Louis Chilanski, c'est l'ancien président de l'industrie française, de l'Union française des industries pétrolières. Il y a un mot quand même sur la consommation des carburants, elle baisse en France. Alors ça veut dire quoi? Que les Français sont raisonnables, ils font attention ou c'est du autre chose?
Non, il y a plusieurs phénomènes. Il y a d'abord les constructeurs automobiles qui ont fait des voitures qui consomment de moins en moins d'essence et de gazole. Et puis les hybrides, qui consomment cette fois beaucoup moins, les voitures électriques qui perdent sur le marché. Donc la consommation, la tendance est à la baisse, mais malgré tout, c'est très lent, parce que le parc automobile, essence, gazole est considérable, et puis il y a une consommation des transports routiers, qui elle...
96% des camions roulent au diesel encore.
Absolument.
Hein,
absolument.
Ouais. Mais croyez à un monde sans pétrole? C'est ça qu'on tente de voilà, c'est la direction qui est fixée, le monde sans pétrole.
La question, c'est quand? Aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir prévisible où on peut se passer totalement du pétrole. Non seulement dans les transports, mais dans la chimie, dans la pétrochimie. Pour faire fonctionner des bateaux, on a besoin de pétrole. Enfin, c'est pas un jour... Un jour, on trouvera des substituts divers au pétrole. Mais dans un avenir prévisible, je sais pas moi, 20, 30 ans, ça n'existe pas.
Donc ceux qui racontent ça, racontent des bobards.
Ouais, ils prennent... c'est un langage politique. C'est pas un langage de la réalité de la consommation. On s'en aperçoit bien aujourd'hui.
Oui.
On n'arrêtait pas de dire on veut pas de pétrole, machin. C'est et puis en fait, d'un seul coup, il y a pas de pétrole et c'est une crise. Enfin, il y a pas. Il y a une tension sur le pétrole et c'est une vraie crise.
Et on voit que ça paralyse l'économie. Et on voit aussi que un Français sur deux continue à rouler au diesel, parce qu'on nous avait dit c'est à la fin du diesel. Enfin, c'est le diesel est encore très présent en France.
Ah oui, il est très présent parce que le parc automobile est très dieselisé. Mmh. Et c'est ce qui explique ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on importe beaucoup de gazole pour ces automobiles.
On a David qui est au 32-16, qui est chauffeur poids lourd du côté de Donges. Ah. Vous voyez, il y a une raffinerie à Donges.
Absolument.
Bonjour David.
Oui, bonjour, excusez.
Bienvenue David. Du côté de Donges, comment ça se passe, tiens, du côté de la raffinerie?
C'est un peu compliqué ce matin, Total, je pense qu'il faisait grève, parce que normalement ils ouvrent à 5h, mais à 5h30 c'était toujours pas ouvert.
D'accord.
Et en fait à Donges, il y a deux raffineries. Il y a une raffinerie Total et une autre raffinerie qui est... c'est l'ancienne raffinerie de l'armée en fait.
Oui.
Et là en ce moment, ce matin, normalement la moyenne c'est 180 camions et là on était à plus de 300.
Ah, ils sont bloqués ou c'est la queue pour aller charger?
Là en fait, il y a beaucoup de camions en fait. Et là j'ai attendu 2 heures pour charger.
Oui, pour réapprovisionner, parce que il y a eu le week-end de Pâques. Maud Bréjon, ce matin, disait qu'il y avait 900 camions qui étaient partis aujourd'hui pour réapprovisionner toute la France, et notamment les stations Total.
Oui, nous, ils nous ont demandé pour travailler lundi. Total nous a réquisitionné, mais il y a certains qui n'ont pas voulu, parce que sinon, ça décale la semaine. Donc, certains ont roulé, mais pas d'autres.
Ouais. D'ailleurs, restez avec nous, Jean-Luc Chélansky. Est-ce que Total doit prolonger son dispositif de plafonnement des prix qui prend fin aujourd'hui?
Alors ça, c'est une question extrêmement difficile. C'est une question. Est-ce que Total va ou ne va pas?
Est-ce qu'ils peuvent? Parce qu'il y a une pression politique là.
Hein, sans aucun doute, il y a une pression politique.
C'est 30%
très
des stations-service Total en France.
C'est ça, exactement. Et ils sont pris entre deux feux, en quelque sorte, la pression politique dont vous parlez, et puis une certaine attente de la part des automobilistes. Mais d'un autre côté, prolonger là, on s'arrête quand? Et ça, c'est...
Un peu prisonnier de leur
opération. Oui, exactement. Et donc ça, c'est vraiment une décision pour le président de Total.
Merci David d'avoir été avec nous et prenez votre mal en patience parce que j'ai l'impression que ça va durer du temps. Hein. Merci, salut David.
Laura,
question?
Oui, moi j'ai une question. Ça représente tout ce qui est bloqué là actuellement dans le détroit d'Ormuz, ça représente en pourcentage combien de pourcents des approvisionnements? Alors pas seulement en France puisqu'on parle du cours du pétrole, donc sur les approvisionnements mondiaux.
Ça c'est la question clé. Hormuz, c'est 15%, un peu plus peut-être, de la consommation mondiale de pétrole qui passe par ce détroit, qui vient d'Arabie Saoudite, du Koweït, de Bahreïn, etc. Le monde ne peut pas vivre avec 15% de pétrole en moins. C'est aussi clair et simple que ça. Donc, à un moment donné, il faudra trouver une solution. Je ne sais pas laquelle, mais le monde ne peut pas vivre avec 15% de pétrole en moins. On peut pas réduire sa consommation. Il y a des stocks stratégiques qu'ils ont libérés, on en parlait tout à l'heure. Il y a 3 mois de stocks stratégiques sur l'ensemble de la consommation. Donc, il n'y a pas de risque de pénurie. Il y a du produit. Mais à un moment donné, il faudra trouver une solution pour que ce détroit d'Ormuz laisse passer des pétroliers.
Et voilà, mais en fait, c'est parce que je me fais un peu porte-parole de tous les gens qui sont comme moi, qui connaissent pas vraiment tout le circuit. Et puis quand monsieur me dit que ça devient très compliqué de trouver du gasoil, c'est un truc que j'apprends. Je savais que voilà, je sais
compliqué
que
de l'essence.
Je sais que c'est l'énergie fossile, que plus on en prend et moins il y en a, c'est pas quelque chose qui se renouvelle. Mais et voilà, et de la même manière que de me dire qu'avec, si on se passe, que dans ta tête tu te dis mais attends, comment le prix de mon plein il peut doubler avec seulement un problème sur 15% de l'approvisionnement? Mathématiquement, on t'arrive pas à comprendre, mais quand là vous nous dites qu'avec 15% en moins, on ne peut pas tenir et que c'est pour ça que les prix flambent à ce point-là, c'est quelque chose qui est entendable et qui est compréhensible pour l'ensemble des Français. Chose qui, par exemple, n'a pas été dite par nos gouvernements. À croire qu'on nous prend pour des imbéciles et qu'on ne peut pas comprendre quelque chose que vous nous expliquez d'une manière extrêmement simple. Et ma deuxième question, pardon, je vous ai coupé, mais comme ça, après, vous aurez tout loisir à me répondre. Il faut aussi expliquer aux gens... Comment, si tout devient compliqué, si le baril flambe, comment Total arrive à dégager 1 milliard?
Ça, c'est une autre question. Ce milliard de Total, c'est une autre question. Mais en un mot, ils ont parié. ils ont parié et fait une opération de trading sur le pétrole. Ils ont acheté du pétrole à $70 le baril du côté de Dubaï en pariant qu'il allait augmenter.
Avec la guerre.
Et donc, ils ont mis, je ne sais pas, peut-être quelques milliards sur la table, sûrement. Et le marché est allé dans leur sens.
Donc vous confirmez dans un sens, pardonnez-moi, que ce sont des profiteurs de guerre, puisqu'ils ont senti la guerre arriver. Vous sentez la guerre arriver, vous prenez une
décision. On achète au son du canon.
C'était pas du business. Donc mon côté libéral dit que le jeu est cool.
Oui.
J'aurais juste aimé que ce coup ne se fasse pas sur le dos du gars.
Il y a du cynisme dans les affaires, toujours.
Non, mais est-ce que vous êtes prête, vous, à prendre le risque? Il y a un vrai risque. Parce que si, mais évidemment, il y a un vrai risque.
Le jour avant, franchement, on savait que Trump, il allait tomber.
Si l'opération s'était complètement dégonflée pour une raison ou pour une autre, ils auraient perdu de l'argent.
C'est possible, parce qu'il est quand même assez changeant.
Bon, mais cette opération-là, on peut en discuter sur la philosophie du trading, etc. Mais c'est une opération particulière. C'est pas le rythme normal des opérations. C'est une opération tout à fait spéciale.
Merci Jean-Louis Chilansky d'être passé par les grandes gueules pour nous avoir donné toutes ces précisions. Ancien président de l'Union française des industries pétrolières.